Bonsoir et bienvenue sur Radio Canu pour la causerie. On va passer un petit générique pour une émission astronomique.
Bonsoir et bienvenue à la causerie, vous êtes bien sur Radio Canu 102.2. Il est 22h et une toute petite brouette. Et ce soir, nous revenons avec notre rendez-vous trimestriel. Et on va vous parler d'astronomie avec notre invité tout spécial, Georges.
Bonsoir.
Et avant de nous dire ce qu'on vient d'écouter... On va faire un petit tour de table parce qu'on est très très nombreux ce soir dans cette pièce, c'est fou, il y a de la chaleur humaine et tout ça, c'est beau. Donc nous avons Fab.
Salut.
Jean-Yves.
Bonsoir.
Clara, la technique.
Bonsoir.
Et nous avons deux invités très spéciaux.
Ben, c'est toujours les mêmes qui sont là depuis pour la troisième semaine et qui nous filment, alors on va pas citer leur prénom, ils méritent pas. Voilà. Ah, Alexis, ouais. Voilà.
Voilà. Et alors, à la causerie, si vous voulez commenter, live tweeter avec nous et tout ça.
Ah ouais, carrément.
Bien sûr. Vous pouvez nous écrire, où ça?
À lacausericanu@gmail.com.
Ou sinon, nous avons un blog.
Et qui se trouve à l'adresse blogs, donc au pluriel, .radiocanu.org/lacauserie.
Et on est aussi sur Facebook.
C'est vrai.
Voilà, cherchez-nous à la causerie Canu, c'est mieux, ça marche.
Exactement. Et donc voilà, ce soir, vous aurez noté que nous sommes donc le 20 mars et arrive le printemps, si c'est pas beau, les petits oiseaux, les robes à fleurs, le panaché, tout ça.
Le panaché.
Et en fait, le printemps, ce n'est pas que ça, c'est une des quatre saisons. Et donc, Georges est là ce soir pour reprendre ses causeries astronomiques. Et nous parler un peu des distances dans le ciel, tout ça. Mais tout d'abord, on va revenir justement sur les saisons et les explications qui vont avec, parce que même nous, membres de la causerie, on doit avouer qu'à chaque fois, un petit rappel ne nous fait pas de mal.
Oui, nous allons vers de jours meilleurs. Or, eh bien, on s'est éloigné du soleil pour la dernière fois.
Ah, c'est ce que tu dis à chaque fois, on s'éloigne, il fait de plus en plus chaud.
C'est ça.
Et là déjà vous avez décroché, nous aussi.
C'est en hiver qu'on est au plus près du soleil, c'est donc pas ça l'origine des saisons. Il s'agit bien de l'axe de la Terre sur son orbite, qui est incliné de 24 degrés, et c'est cela qui est à l'origine des saisons. Au mois de décembre, c'est l'hémisphère sud qui est davantage penché vers le soleil que l'hémisphère nord. C'est l'été dans l'hémisphère sud et c'est l'hiver dans l'hémisphère nord. Et en été, chez nous, c'est l'inverse. Hein, c'est nous qui sommes davantage penchés vers le soleil plus penché que vers l'hémisphère sud, et c'est chez nous qu'il y a plus de chaleur reçue par le soleil. C'est donc l'été chez nous. On y va tout doucement. L'été dans 3 mois.
Oui, c'est ça, je le confirme.
Très précisément.
Et donc là, c'est comme je l'ai joliment dit la semaine dernière, le solstice de non, c'est pas ça, je sais, c'est l'équinoxe.
C'est l'équinoxe.
Voilà, mea culpa, honte sur moi, tout ça. Enfin,
le solstice, on se met tous tout nus et l'équinoxe, c'est semi-nu. Voilà, c'est comme ça.
Non. Donc l'équinoxe de printemps. Donc ça veut dire quoi déjà équinoxe, rappelle-le?
Et oui, ça veut dire que le jour est égal à la nuit sur toute la surface de la planète, équinoxe.
Bah c'est cool, tu es très stressé, je sens que la caméra te stresse, Georges. Détends-toi, ils sont gentils, ils mordent pas.
Oh mais je n'en doute pas.
Et mais Georges, alors ça c'est ce qui se passe sur Terre. Mais alors sur la nouvelle planète qu'ils ont trouvée, il se passe quoi?
Ah là là, je vous avais promis qu'on reparlerait de cette neuvième planète.
Parce que moi j'ai vu à la télé, il paraît qu'on peut aller y vivre, c'est comme la Terre et tout, 10 fois plus gros et très joli.
Bien sûr, d'ailleurs j'ai réservé mon billet.
Fais profiter de la promo, vas-y balance les codes.
Bien sûr, bien sûr. À l'origine, avant 1930, le système solaire avait 8 planètes. Jusqu'à la découverte de Pluton en 1930, qui du coup devenait la 9e planète. Et la pauvre Pluton a été déclassée en 2006 en planète naine. Donc depuis 2006, le système solaire a à nouveau 8 planètes. Et puis, janvier 2016 de cette année, le scoop, on aurait découvert une 9e planète. Et les médias se sont emparés de l'affaire. Ils nous présentaient cette planète comme égale à 10 fois la Terre, mais avec un sol solide, etc. Franchement, ce genre d'information est dangereux, parce que qu'est-ce qu'on sait de cette hypothétique, je dis bien hypothétique, 9e planète? L'origine, c'est la perturbation créée par quelque chose au large du système solaire, dans ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Il y a 8 objets dont les trajectoires étaient perturbées. Et l'explication qui a été donnée, c'est qu'il y a une masse à cet endroit, aux confins du système solaire, à l'extérieur de la ceinture de Kuiper, qui perturberait ces objets. Mais on ne l'a pas observé directement. Ça va être très difficile. Le meilleur candidat pour la trouver, ça serait peut-être Hubble, mais Hubble, il a une toute petite fenêtre d'observation. Pour lui, c'est comme pour chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc ça va être très difficile pour Hubble de trouver cette 9e planète. À l'heure actuelle, personne ne peut dire qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas.
On va peut-être rappeler ce qu'est Hubble, c'est ça?
Ouais. Hubble, c'est le satellite, c'est ça?
Le satellite spatial.
Et alors, ce que tu appelais la ceinture de...
Kuiper.
Kuiper. Alors, qu'est-ce que c'est la ceinture de Kuiper?
C'est comme un anneau autour du Soleil, un anneau composé d'objets plus ou moins glacés, dans le lointain du système solaire. Ça démarre à 5 milliards de kilomètres, c'est-à-dire juste au-delà de l'orbite de Neptune, pour aller jusqu'à 30 milliards de kilomètres du Soleil. Des milliards de cœurs qui, dans cette zone, tournent autour du Soleil, comme l'anneau autour de Saturne.
Et c'est là que se trouverait la, théoriquement, 9e planète?
Voilà, c'est ça, sur le bord extérieur de cet anneau de Kuiper. Elle serait située à 37 milliards de kilomètres et elle aurait 10 masses terrestres.
Et alors, c'est loin, 37 milliards de kilomètres?
C'est tout près à l'échelle de l'univers, tout près.
Et pour donner un ordre d'idée, par rapport à la planète la plus éloignée de la Terre, ça fait quoi?
C'est Neptune qui est à près de 5 milliards de kilomètres. Elle est au bord interne de l'anneau de la ceinture de Kuiper.
Et donc elle serait beaucoup, beaucoup plus loin, cette 9e planète après le Soleil.
C'est cela.
Plus de 6 fois, oui. C'est ça?
Ouais, bien. Les maths sont là. Et ça, enfin, est-ce que c'est logique pour toi qu'on découvre encore aujourd'hui, en 2016, de nouveaux corps célestes, une nouvelle planète
ou, Absolument. Ouais. Avec l'affinage des techniques, les nouveaux moyens technologiques, nous allons de plus en plus découvrir des choses qui seront, à mon avis, pour le moins étonnantes.
Ça va de pair avec les exoplanètes, par exemple, qu'on découvre très loin, tout ça dont tu parlais la dernière fois.
Oui, donc les exoplanètes, hein, je le rappelle, ce sont les planètes circulant autour d'autres étoiles que le Soleil. C'est donc très très loin. C'est une grande difficulté pour les repérer. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, nous en avons quand même détecté plusieurs centaines. On doit être à un millier, je crois, aux dernières nouvelles, d'exoplanètes.
Mais alors, à ce jour, l'existence de cette planète est non vérifiée.
Absolument.
Et du coup, pour toi, il y a eu beaucoup de bruit, on va dire, dans les médias pour... On va pas dire pas grand-chose, mais en fait, une avancée qui, pour le moment, en tout cas, est pas vérifiée.
Et... Oui, et je trouve ça relativement grave hein, de balancer comme ça du spectaculaire à tout prix, et puis pour quelque chose qui dont on n'est pas certain du tout.
Malheureusement, on en avait parlé quand on avait reçu Controvers Science.
Tout à fait.
Le problème de la presse en général. Elle fait du scoop et du coup, on le voit là même avec sur un tout autre sujet, le vaccin contre le sida, en théorie, qui serait déjà... alors qu'en fait, il n'y a pas plus d'avancée en réalité sur ce qui a été trouvé. C'est juste qu'ils ont publié ce qu'ils avaient déjà annoncé et que du coup, on donne des espoirs qui sont assez terribles. C'est-à-dire qu'un coup, on dit, ça y est, on est à deux pas, alors que non, en fait, même les équipes de chercheurs ont dû dire non, en fait, on a juste publié ce qu'on vous avait déjà annoncé il y a 3 ans. Il n'y a rien de neuf, c'est juste qu'on a avancé dans nos connaissances.
C'est d'autant plus grave que là, ça impacte beaucoup de personnes.
Mmh. Oui, mais c'est de la désinformation scientifique plutôt que de l'information, parce que ça donne des fausses idées aux gens. Comme là, je vais un peu taper sur TF1, pardon, mais dans le journal de Jean-Pierre Pernaut, et oui, je balance, ils ont quand même présenté une modélisation d'artistes de la 9e planète, et ils l'ont représenté avec des océans, comme la Terre en 10 fois plus gros, quoi. Et enfin pas avec les mêmes continents, mais c'est quand même grave parce que si c'est pas du tout ça, d'abord c'est complètement idiot de laisser penser ça aux gens. Puis en plus c'est une sorte d'espoir de dire vous inquiétez pas, on pourra aller là-bas si la nôtre va pas bien quoi.
Ce qui Alors est, on est ce d'accord, qui est c'est n'importe quoi.
Bah voilà, mais c'est le genre de truc qu'on a vu circuler quoi. Voilà. On fait une coupure musicale, c'est pour ça que tu fais ce regard.
Ah non, du tout.
Mais faisons une coupure musicale
oui,
quand même.
Exactement. Je vais juste te dire qu'on a ouvert avec. Ouais.
Avec Star Trek, Voyager, une excellente série, je vous la recommande.
Voilà.
La playlist est toujours à la hauteur du voyage que tu nous offres, Georges, je trouve.
Et juste te dire que c'était composé par Jerry Goldsmith. Voilà.
Bien vu.
C'est vrai.
Oui.
On passe au titre.
Yes.
Allez. Musique.
Waouh, brutal le retour.
Ça a coupé sec. Hein.
Oui, c'était très sec. Bon, vous êtes de retour donc dans la causerie, cette causerie astronomique en compagnie de Georges. On vient de s'écouter, Georges, tu peux nous donner le titre et,
C'est Jean-Michel Jarre et ça s'appelle Chronologie 4.
Yes. Et puis bah, là, on va rentrer un peu plus dans le sujet de ce soir qui est... la première émission, on vous a causé des distances qu'il y avait entre nous, enfin entre la planète Terre et plein d'autres choses autour. Et ben là, on va se poser la question de comment en fait on a mesuré, comment on mesure encore aujourd'hui, justement ces distances-là en fait.
Alors j'ai souvent la question, mais comment on le sait? On n'y est pas allé. Comment on a pu savoir? Et on a pu savoir, pour certaines choses, dès l'Antiquité. Donc ça remonte à loin, ça remonte aux Grecs. Qui nous ont légué mais des choses phénoménales en matière de science. Et les Grecs étaient capables de mesurer des angles. Ils nous ont instauré la géométrie. Et la trigonométrie, c'est comme cela que l'on s'en sort, pour mesurer les distances, dans le système solaire en tout cas. La trigonométrie, ça va rappeler de bons souvenirs à tout le monde,
ou
des
excellent, mauvais. Excellent.
Les sinus, les cosinus, les tangentes, les...
Ça fait mal.
Et c'est la faute à Pythagore, quoi. Voilà. Et donc, du coup, tu disais qu'il mesurait des grandes distances. Tu vas quand même pas me dire qu'à l'époque grecque, on savait, par exemple, que la Terre était ronde et combien elle mesurait.
Et si. C'est le génial Eratosthène qui a mesuré, en 200 ans avant Jésus-Christ, les dimensions de la Terre. Eratosthène. Comment s'y est-il pris? Eh bien, il était à Sion, il a remarqué qu'au moment du solstice d'été, le solstice.
Oui, ça va, Jean.
Eh bien, le soleil se reflétait au fond d'un puits. Il était donc parfaitement à la verticale. De Sion. Sion, c'est la basse Égypte, c'est la haute Égypte, pardon, c'est complètement dans le sud de l'Égypte. C'est Assouan maintenant.
Okay.
Et l'année suivante, il s'est donc déplacé à Alexandrie, qui est à 800 km, plus au nord. Et il a mesuré l'angle que faisait le soleil avec la verticale. Et il a trouvé 7 degrés. Et il a fait, mais alors, une simple règle de 3. Si pour 7 degrés, j'ai 800 km, pour 360 degrés, j'ai combien? Et il a trouvé 40 000 km. C'est extrêmement proche de la valeur réelle. Circonférence de la Terre, 40 000 km. C'est la circonférence qu'a la Terre à l'équateur, en réalité. Elle est un peu plus écrasée au pôle. Alors, il a eu beaucoup de chance, parce qu'il a fait 2 petites erreurs qui se sont annulées. C'est pour ça qu'il est tombé si près de la valeur réelle. Il a fait une première erreur sur l'estimation de l'angle que faisait le soleil à Alexandrie avec la verticale. Toute petite erreur, mais... Il a fait une deuxième erreur sur la distance réelle entre Sion et Alexandrie.
On lui en tiendra pas rigueur.
Non, puis on va rappeler quand même qu'à l'époque grecque, et dans cette région... On avait des mesureurs qui mesuraient ça en pas de dromadaire, parce que c'est le seul animal qui fait des pas constants. Donc vous imaginez, il faut faire avancer un dromadaire et compter les pas, et après vous faites fois tant. Donc on peut faire une petite erreur de distance.
Vous voilà. Imaginez ça sur 800 km.
On comprend que ça peut faire une erreur. Et donc, dès l'Antiquité, on est capable de mesurer ce genre de distance-là. Mais alors tu disais qu'on s'en sert dans le système solaire. Un petit exemple?
Oui. On va faire une petite parenthèse pour bien comprendre. On va parler du parallaxe. Qu'est-ce qu'un parallaxe? Eh bien, je vous invite à cette petite expérience. Vous tendez votre doigt devant vous. Choisissez bien le doigt suivant la personne que vous avez en face de vous.
Toujours celui du milieu pour ma part.
Voilà. Et vous fermez alternativement l'œil droit et l'œil gauche. Et vous voyez votre doigt se déplacer devant le décor. Parce que votre angle de vue change. Et donc, votre doigt semble avoir changé de position entre l'œil droit et l'œil gauche. Eh bien, on utilise ça, on utilise la parallaxe pour mesurer les distances en astronomie. Alors évidemment, l'écartement entre les deux yeux, c'est pas suffisant pour mesurer de tels angles. Vous avez tous vu également ces étudiants le long des routes, qui sur un trépied mesurent des angles avec leurs petites lunettes, et puis déplacent leur trépied et refont les mesures. En fait, ils mesurent des parallaxes. Et de ces parallaxes, Avec des calculs d'angle de la trigonométrie, ils en déduisent les dimensions ou les distances des terrains, des immeubles, des hauteurs aussi des immeubles. C'est le travail de géomètre. Eh bien, on fait un peu la même chose en astronomie.
Mais qui va tenir le pied à l'autre bout? Parce que c'est loin.
Et oui, c'est ça. Il faut faire des mesures avec une distance suffisante entre les mesures. Et pour ça, on a la surface de la Terre, il faut pas mal se déplacer, faire des mesures à un endroit donné de la Terre, se déplacer de plusieurs centaines de kilomètres et refaire les mesures. Et avec cette simple méthode, qui demande des calculs quand même pas si simples que ça, c'est de la trigo de haute volée.
Je veux quand même donner une petite précision, lors de la préparation, nous avons été trois à perdre conscience.
Oui.
Non mais effectivement, c'est l'idée, c'est que c'est quand même il y a des principes qui sont très complexes et que là on n'est pas forcément là pour ça, mais c'est effectivement comme tu dis, c'est de comprendre des procédés, etc. Donc c'est vas-y quoi.
On a donc comme ça mesuré la distance des planètes. Alors effectivement, quand on fait à l'instant la mesure, on a la distance entre la Terre et cette planète. Et par recoupement, si on fait des centaines et des centaines de mesures, eh ben, on arrive à établir les orbites des planètes. Et on a comme ça, de façon très précise, étalonné le système solaire.
Et ce, depuis quelle période à peu près?
Alors, cela, c'est le 16e, 17e siècle. C'est quand même très, très vieux. 17e siècle, avec les performances des instruments de mesure des angles qui ont augmenté. Mais il restait un problème de taille, c'est la distance du Soleil. Pour le Soleil, c'est plus compliqué parce que quand il est là, rien d'autre n'est visible dans le ciel. Il est trop lumineux, il fait trop jour. Ça restait un problème. On avait estimé sa distance, mais avec une grosse marge d'erreur. On était dans le bon ordre de grandeur, mais ça restait imprécis. Et c'est un phénomène astronomique qui va aider les astronomes. En 1769, lors de l'expédition de James Cook dans le Pacifique, et notamment près de Tahiti. Et en parlant de Tahiti, à ce propos, je remercie la famille Perrin, et notamment Stéphanie, qui est au club d'astronomie de Chaponnet, et qui m'a fourni quelques infos à ce sujet. Alors la famille Perrin, il faut savoir qu'ils sont partis 2 ans sur un voilier, autour de la planète. Stéphanie est partie avec mari et enfant. Et notamment, ils sont allés à Tahiti sur le chemin de James Cook et de son expédition de 1769. Merci Stéphanie. Alors, ce que je voudrais préciser là, c'est que James Cook, il a surtout transporté des astronomes qui se sont un peu répartis partout dans le Pacifique pour faire des mesures précises du passage de Vénus devant le Soleil.
Donc avec des angles différents.
Avec des angles différents. Donc plusieurs parallaxes.
Ah, juste pour que les gens comprennent, et moi aussi, plusieurs bateaux, à plusieurs endroits sur le Pacifique, ça fait plusieurs angles de vue différents.
Exactement.
Okay.
Donc c'était le passage de Vénus devant le Soleil, phénomène dont on a eu droit en 2004 et qui ne se reproduira pas avant le 23e siècle, malheureusement.
Tu verras jamais ça, genre.
J'ai vu une fois.
C'est ça. En 2004.
Lui, tu reverras jamais ça.
Lui, il l'a vu. J'en verrai jamais.
De ce passage de Vénus devant le Soleil, on a déduit pour la première fois une distance précise du Soleil.
Parce qu'on connaissait déjà la distance Terre-Vénus à ce moment-là.
Oui.
Et donc, du coup, il suffisait de jouer sur les distances.
Tout à fait. Tout à fait.
T'arrives à expliquer ça plus simplement à la radio ou pas, Georges?
Pas simple à la radio, on n'a pas de quoi faire un croquis. Donc le Soleil, sa distance moyenne, c'est 150 millions de kilomètres. Je vous l'annonce comme ça. On en avait déjà parlé il y a plusieurs émissions.
Ouais, ça va, on n'est pas surpris quoi. Et donc du coup, moi j'avais une question, donc tu parles de la Renaissance, 16e, 17e, 18e siècle. Enfin 18e, c'est plus la Renaissance d'ailleurs. Ce qui est intéressant, c'est d'imaginer que entre la Grèce antique et à peu près le 15e siècle, en Europe, en gros, on pense que la Terre est plate et voilà, c'est tout quoi.
Enfin, on
s'intéresse pas vraiment, et même c'est même une hérésie de s'intéresser à ce qui se passe dans le ciel.
Années d'obscurantisme, la science était morte. Après les progrès que nous avaient fait faire les Grecs, c'est d'une tristesse inouïe. La science était morte au Moyen-Âge en Europe.
Et donc, on a réussi à avoir la distance Terre-Soleil, mais il y a plein d'autres étoiles dans le ciel.
Alors, les étoiles. On a longtemps cherché à faire la même chose pour les étoiles. Et on ne trouvait pas de parallaxe mesurable. C'était, en fait, les étoiles sont simplement trop loin. Et c'était pas mesurable pour l'époque. Il a quand même fallu attendre longtemps pour qu'on puisse mesurer la distance des étoiles. On s'y est pris d'à peu près de la même façon, sauf que se déplacer sur la Terre, c'était pas suffisant pour changer d'angle de vue. On faisait des mesures à 6 mois d'intervalle. Et on utilisait donc le diamètre de l'orbite terrestre. La Terre est à un certain endroit, on fait des mesures. On attend 6 mois, la Terre a fait un demi-tour du Soleil. Et elle se retrouve à 300 millions de kilomètres de sa position initiale et on refait les mesures. C'est le parallaxe annuel. Et il a quand même fallu attendre le 19e siècle pour qu'on puisse obtenir un parallaxe mesurable et évaluer de façon satisfaisante la distance de plusieurs étoiles. Mais c'est très loin.
Et ça veut dire qu'en fait, les progrès de la science font qu'on affine toujours et encore les mesures.
Oui, c'est ce qui est chouette en science, hein, que l'on ne retrouve pas dans les superstitions ou dans les religions.
C'est que ça évolue.
Où c'est figé, ça n'évolue pas.
Non, alors, une coupure, mais moi, il y a un truc qui me vient avant, mais c'est la Lune, en fait, la distance Terre-Lune. Il n'y avait pas une mesure qui était faite différemment, ou c'est moi qui me...
Alors, de nos jours, on mesure à quelques centimètres près la distance Terre-Lune. Et comment s'y prend-on ?
Ouais, c'était ça.
Oui, tout à fait. Eh bien, on tire au laser sur la Lune. La pauvre, c'est pas Star Wars, ne vous inquiétez pas, il lui arrive rien. À plusieurs endroits, partout répartis sur la surface de la planète, et notamment en France, dans le sud de la France, près de Grasse, sur le plateau de Calem, où on fait... C'est l'observatoire de la Côte d'Azur et où on fait régulièrement des mesures de la distance Terre-Lune en tirant au laser sur des réflecteurs qu'on a posés sur la Lune et en mesurant le temps que met le laser pour revenir, tout simplement.
Quoi ? Mais on est allé sur la Lune ?
Oui, alors ça c'est intéressant parce qu'effectivement, tous ces gens qui pensent qu'on n'est pas allé sur la Lune, que c'est un complot, etc. C'est pas vrai, on n'y est jamais allé, c'est pas possible. Ben si, la preuve, on utilise les réflecteurs qu'on a posés, on les utilise très régulièrement. Il a donc bien fallu y aller.
Ouais, mais en fait, c'est un complot, vous faites semblant d'avoir...
C'est à Hollywood, en fait.
Mais oui.
Non, mais c'est vachement... Enfin, je trouve que c'est hyper intéressant de savoir que ce qui a été posé dans le passé, c'est encore aujourd'hui, et que quotidiennement ou régulièrement, du moins quand ces mesures sont prises, ça démonte tout ce complot qui est autour de ce truc sur la Lune, quand même, qui tient un peu quand même des fois. Je trouve que c'était intéressant.
Oui, c'est assez fou.
Ouais.
D'ailleurs, Georges, avant qu'on fasse une théorie, on peut voir les modules lunaires, je crois, quand on a un très bon télescope sur la Lune.
Sérieux ?
Non.
Ah,
c'était moi, je crois, c'est tout. Hein. C'était pour la blague.
Je suis naïf. Bon, on fait une petite coupure musicale.
Allez. Thank you. Vous êtes bien de retour à la causerie.
Voilà, ça c'est fait. Non, mais non, mais pas un fou rire battant, pas dans une émission sérieuse.
Mais c'est Jean-Yves.
Mais dis donc, tu balances vite, toi.
C'est toujours le même.
Alors, qu'est-ce qu'on vient d'écouter?
On vient d'écouter. Oh non, je peux pas. Allez, L'enfant de Vangelis.
Merci.
Non, je peux pas.
Tu peux pas. Alors, Georges, tu nous parlais juste avant du calcul de la distance Terre-étoile, de plusieurs dizaines.
Elles sont loin. Elles sont très loin.
D'ailleurs, c'est quoi les ordres de grandeur qu'on se rende compte comme ça, un peu
Eh bien,
pour rappeler un peu les ordres de grandeur qu'on a.
Le plus pratique, c'est d'abandonner le kilomètre et d'utiliser l'année-lumière. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va, comme il y a trois émissions, on va imaginer un rayon lumineux qui s'échappe du Soleil. À la vitesse de 300 000 km par seconde, c'est considérable, hein, c'est 7 fois le tour de la Terre à la seconde. Ce petit rayon de lumière, atteint la Terre en 8 minutes seulement. 150 millions de kilomètres en 8 minutes. Comme je le disais, il n'y a pas de radar sur sa route, il peut y aller. Il met 5 heures pour atteindre Neptune, la dernière planète. Et puis, après Neptune, plus rien. Un grand trou considérable. Et après 5 heures de voyage pour dépasser le système solaire, ce rayon de lumière ne va plus rien rencontrer pendant 4 ans. 4 ans à la vitesse de 300 000 km par seconde avant d'atteindre l'étoile suivante. 4 années de lumière. C'est à peu près la distance moyenne qui sépare chacune des 100 milliards d'étoiles de notre galaxie. C'est immense.
Et c'est ce qu'on a réussi à mesurer grâce à nos petits parallaxes jusqu'à maintenant. Et dans la prépa, tu nous as dit un mot bizarre, tu as dit Hipparcos. Et on a dit, mais c'est quoi Hipparcos?
C'était un satellite astrométrique européen qui, dans les années 90, fin des années 80, début des années 90, a mesuré la parallaxe de façon très précise de 118 000 étoiles. Donc on avait la distance précise, sans ambiguïté, de 118 000 étoiles. Ça a permis de jalonner un petit peu la galaxie et les environs du Soleil dans cette galaxie. Et on n'est pas allé extrêmement loin. Hein. Faut savoir que Hipparcos, il a cartographié la proche banlieue de notre Soleil.
La proche banlieue,
la périphérie.
Il faut d'autres moyens pour aller plus loin, bien entendu, avec d'autres techniques.
Oui, parce que plus un point est loin, et moins il est possible de faire varier sa parallaxe.
Oui, même pour Hipparcos, aller plus loin était impossible. Les angles à observer sont trop faibles, beaucoup trop faibles et impossibles à obtenir.
Et c'est quoi la mesure de l'angle la plus petite?
On est actuellement de l'ordre du millième de seconde d'arc. Alors je vais expliquer ce que c'est, la seconde d'arc. Vous prenez un degré, ça tout le monde se représente ce qu'est un degré. Vous prenez la Lune qui sur le ciel occupe un demi-degré, 30 minutes d'arc. Donc si on divise le degré en 60, on obtient la minute d'arc.
Ouais.
C'est bon?
Oui, ça va, ça va.
C'est la limite de visibilité de l'œil. L'œil n'est pas capable de séparer deux objets si entre les deux il n'y a pas au moins une minute d'arc. Vous redivisez cette minute d'arc en 60 et vous obtenez la seconde d'arc. C'est actuellement à peu près la performance des bons télescopes d'amateurs, la seconde d'arc. Et puis vous redivisez par 1000 cette seconde d'arc et vous obtenez les possibilités d'Hipparcos à l'heure actuelle.
Ouais, donc on peut voir des objets célestes très très lointains, mais il a quand même sa limite.
Il a sa limite, oui.
Et comment on fait quand on atteint la limite? Parce que tu nous as dit que tu connaissais la taille de la galaxie et la taille d'au-delà de la galaxie, donc c'est qu'à un moment donné, tu as un truc pour mesurer tout ça.
Tout à fait. Avant de parler des céphéides, on va quand même permettre de se rendre compte que, on s'est beaucoup démené pour jalonner la galaxie par estimation successive, en utilisant une chose, c'est la brillance apparente des étoiles. Les étoiles ont des couleurs différentes et on a essayé comme ça de se dire que si elles étaient plus faibles, eh bien c'est qu'elles étaient plus loin. Et on est arrivé à pas une bonne précision, mais à des jalons comme ça tout au long de la galaxie. Et on avait déjà une bonne idée, pas précise effectivement, mais une bonne idée des dimensions de la galaxie de cette façon, par tâtonnement. Et puis, il y a un groupe d'étoiles qui va venir à notre secours, qu'on appelle les céphéides. Les céphéides, ce sont des étoiles dont l'éclat varie. Pas n'importe comment. En réalité, physiquement, une céphéide, c'est une étoile pulsante. C'est-à-dire qu'elle enfle, elle enfle, elle enfle, elle enfle. En enflant, le corps se refroidit. Pouf, sa luminosité, sa température et sa luminosité baissent. Et ensuite, elle se recontracte à nouveau, la luminosité augmente. On a des courbes de lumière comme ça, des céphéides. Céphéides, du nom de la constellation de Céphée, la première d'entre elles a été découverte dans Céphée.
Et alors, quand tu dis qu'elles sont pulsantes, c'est rapide, comme pulsation ?
C'est quelques semaines.
Ouais.
C'est pas énorme, hein, quelques semaines dans la vie d'une étoile.
Bah dans la nôtre,
C'est vraiment une pulsation. Et puis on a découvert qu'il y avait une relation, mais vraiment très nette, entre leur masse et donc leur luminosité et leur période de pulsation. Donc on a pu comme ça avoir leur luminosité réelle à partir de, en mesurant simplement leur coupe de lumière et leur période de pulsation. Et on a pu du coup en déterminer de façon très précise cette fois-ci la distance. La distance de ces céphéides.
Oui, c'est ça, mais comment ?
Oui, parce que comme je le disais, on a une relation qui est très nette entre la période de pulsation et l'éclat réel de l'étoile. Et comme on a son éclat apparent, il est assez simple, il faut quelques équations, d'en déterminer l'éclat réel à partir de son éclat apparent dans le ciel. Simplement, elle est plus loin, elle apparaît plus faible. Mais en réalité, on a son éclat réel grâce à sa période de pulsation. Une céphéide, donc.
Donc, on calcule la distance en estimant. Alors, je vais prendre un truc totalement bateau pour voir si j'ai compris. Puis, si je n'ai pas compris, tu me diras que c'est nul ce que j'ai dit.
Vas-y.
C'est un peu comme quand on a une voiture qui est sur un coteau et qui est plein phare face à nous. On arrive à voir qu'elle a une certaine distance. Si elle va deux coteaux plus loin, on voit moins les phares.
Oui,
et
oui, absolument.
Coup, on se dit, elle est plus loin.
Absolument.
Oui. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on arrive à estimer la distance. Ouais, je suis revenu en bagnole, je sais pas pourquoi, mais c'était parce que j'arrivais pas à voir. Donc en fait, on connaît l'éclat qu'elle devrait avoir et on voit son atténuation par rapport à la distance et on
Exactement.
Dit elle est à peu près là, quoi.
Exactement.
J'ai bien compris. Waouh, wow, j'avais pas compris vendredi.
Ça en fait 1 sur 4.
Exactement. Mais voilà. Mais pour, je sais pas comment on peut. C'est pour reprendre une autre image, c'est comme quand un bateau voit un phare au loin. Mm-hmm. Plus il s'approche, plus le phare est lumineux.
Oui.
Et plus il est loin, plus il est faible. Mais il arrive à estimer la distance de la côte par rapport à la luminosité du phare. Oui. Donc je suis à peu près à tant de milles de la côte.
Oui.
Alors vous connaissez tous une céphéide. Je fais une révélation là ce soir.
Quoi ?
Je ne savais pas.
L'étoile principale de la petite ours, l'étoile polaire, donc, est une céphéide.
Oh. et du coup, comme l'étoile polaire, on peut la voir à l'œil nu varier en luminosité.
C'est faible hein, comme variation. C'est très faible et il faut des instruments précis qui établissent précisément la courbe de lumière de l'étoile.
D'accord.
À l'œil nu, c'est faible. Il y a à l'œil nu des étoiles variables qui ne sont pas des céphéides, dont l'amplitude est très importante, où effectivement on voit varier au fil des jours et des semaines l'éclat de l'étoile, mais pas les céphéides.
Moi je voulais rajouter un élément, c'était sur la luminosité justement des céphéides. Et en fait, si tu disais, c'était 1000 fois, je me trompe pas, hein, c'était 1000 fois la
lumière. Oui, ce sont des étoiles très jeunes, très massives, et donc par conséquent très, très brillantes et très, très chaudes. Mm-hmm. Entre 1000 fois et 10 000 fois la luminosité du soleil.
Ouais. On est souvent plus chaud quand on est jeune, Charles. Rien à voir. pardon. Oh, bah désolé.
Très bien, voyons.
Vous ne faites que l'écouter, nous on fait une émission avec.
Voilà. Mais moi, du coup, j'ai une question. Ces céphéides, on en a trouvé dans notre galaxie, à l'extérieur de notre galaxie. Mais depuis quand est-ce qu'on sait qu'il y a d'autres galaxies ?
Ah, voilà une question intéressante. Historiquement, jusqu'au début du XXe siècle, l'univers, c'était la galaxie, la Voie lactée. C'est déjà immense, hein, on l'a vu tout à l'heure, c'est immense, mais c'était tout l'univers. On voyait des nuages de gaz un petit peu partout dans notre galaxie, et puis on voyait des nuages à forme plus régulière, en forme de spirale par exemple. On parlait de nébuleuses spirales à l'époque. Il y en a un peu partout, réparties dans toutes les directions, des grandes, des petites. Et puis, 1927.
Ah, t'avais dit 23 à la prépa. 27, 23.
Attends, il a un doute, arrête.
Ouais, c'est pas grave. Hein, mais... Mille pardons, c'est bien 1923. Merci Fabien.
De rien.
Mille pardons. 1923, Hubble, pas le télescope cette fois-ci, l'astronome qui lui a donné son nom, Hubble trouve une céphéide dans la nébuleuse d'Andromède. Ça a fait grand bruit. Alors, essayez d'imaginer le truc. Il est là à faire des calculs pour en estimer la distance. Tout le monde est penché vers lui. On voit la feuille se couvrir d'équations. Et le résultat en bas à droite tombe. Et là, c'est la stupeur. C'est la stupeur générale parce que son calcul met Andromède à 2 millions d'années de lumière. C'est-à-dire bien au-delà de la galaxie qu'on pensait être tout l'univers, bien au-delà. Et du coup, naissent ce qu'il a appelé les univers-îles, où toutes ces nébuleuses spirales sont en fait elles-mêmes des galaxies, et ce de plus en plus loin. Brusquement, l'univers devient des millions de fois plus grand, en 1923.
Tout simplement, quoi. Et ça a révolutionné vraiment la science astronomique, du coup.
Totalement.
Et c'est là que naît, alors comment tu avais appelé ça ? La cosmologie, c'est
oui,
ça ?
La cosmologie, c'est-à-dire l'étude de l'univers à très grande échelle.
Ah ben voilà. Non mais c'est pour que les gens ils se rendent compte que c'est pas si vieux que ça.
Oui.
En 1923, on est à... Ouais, on est quoi ? C'est avant-hier, quoi. Et,
tout à fait.
Et avant, on ne pensait pas qu'il y avait des objets célestes en dehors de la Voie lactée.
Absolument.
Du tout. C'est-à-dire que c'était une sorte de constante. On disait la Voie lactée, c'est l'univers.
C'est ça.
Comme quoi la science, ça évolue. On en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Et du coup, ces céphéides, elles servent à mesurer toutes les distances. On en a partout. On en trouve dans toutes les galaxies, ou est-ce qu'il y a un autre moyen de calculer les distances ?
Oui, il n'y a pas de céphéides dans toutes les galaxies. En tout cas, on n'en a pas trouvé dans toutes les galaxies. Il fallait effectivement d'autres moyens pour jalonner à grande échelle l'univers. On parle là-dessus, on fait une petite
pause. Non, on va faire une petite pause, puis on partira après, parce que Jean-Yves, il fait « Oh, t'as vu l'heure ?»
Oui, oui, je parle pas beaucoup, mais je fais attention au temps.
Toi, t'es le seul qui est tourné vers la pendule, ça aide.
Allez, on fait une petite coupure musicale et on revient après.
ce soir, à la causerie, ça coupe sec dans les morceaux, on ne sait pas pourquoi, désolé. Donc c'est bien la causerie, c'est Pink Floyd qu'on vient d'écouter avec Calling. Et bah, comme tu t'en doutes, auditeur ou auditrice, s'il y a de la musique qui plane, si on a démarré avec un générique de Star Trek, c'est que Georges est avec nous. Et depuis le début de l'émission, il nous parle de comment qu'on calcule les distances. Et puis si tu as raté le début de l'émission, bah, tu la reprendras, parce que là on va parler de comment on calcule la distance entre les galaxies. Et là, accroche-toi.
Okay. On est parti.
Bah oui.
Alors on a effectivement d'autres moyens pour mesurer les distances. Je vais refaire un point sur une analyse qui existe depuis extrêmement longtemps en chimie et qu'on utilise aussi en astronomie, qui est la spectroscopie. Le principe, c'est d'étaler la lumière en un arc-en-ciel, un spectre. Et cette lumière, bien entendu, elle a, quand elle traverse la matière, elle a certaines de ses parties qui sont absorbées et qui apparaissent sous forme de petits raies noires. Les raies noires correspondent au niveau d'énergie qui a été absorbé par les matériaux que la lumière a traversé. Voilà, ça c'est l'analyse spectrale. C'est de cette façon qu'on connaît la composition des étoiles, sans y être allé, là non plus. Et ça nous renseigne sur autre chose, sur le mouvement. Ça nous renseigne sur le mouvement, de quelle façon? Eh bien, imaginez-vous le long d'une route, et une voiture passe, elle s'approche de vous.
Wow. Il a demandé une voiture.
Fabien fait super bien la voiture qui passe dans la rue.
Pas du tout.
Ok,
c'est bon.
Quand cette voiture s'approche de nous, son son est plus aigu, décalé vers les aigus. Et quand elle nous dépasse, elle s'éloigne de nous, le son est décalé vers les graves. Eh bien, la lumière, c'est une onde également. Et il se passe la même chose. Autrement dit, quand la source lumineuse se déplace, si elle s'approche de nous, ses raies spectrales sont décalées vers le bleu. Et quand la source lumineuse s'éloigne de nous, ses raies spectrales sont décalées vers le rouge. On parle de red shift, décalage vers le rouge. Et ça nous renseigne sur la vitesse.
C'est vrai, on a une vraie voiture qui est passée devant Cadu à toute vitesse.
Sur la vitesse, ça c'était pour illustrer. Ça nous renseigne sur la vitesse de fuite des objets qu'on observe. Et grâce à ça, Hubble s'est rendu compte que les galaxies nous fuient à grande vitesse, et ce, d'autant plus vite qu'elles sont éloignées. Comment ça se fait? Eh bien, imaginez un pain au raisin qu'on est en train de faire cuire. Oui, je sais, Emma n'aime pas le pain au
raisin. Merci de révéler ça à la radio. Ce détail est extrêmement intime de ma vie.
Et prenons ce qui arrive pour trois raisins disséminés dans ce pain. Un deuxième raisin qui est à 1 cm du premier et un troisième qui est à, allez, mettons 10 cm du premier. L'univers double, le pain au raisin double de volume. Le deuxième grain de raisin s'est éloigné d'un centimètre du premier, il est maintenant à 2 cm. Mais le troisième qui était à 10 cm, il est maintenant à 20 cm. Il s'est éloigné beaucoup plus vite. Il a parcouru 10 cm pendant que le premier n'en parcourait qu'un. Pour l'univers, c'est la même chose. C'est pour cette raison que les galaxies semblent nous fuir d'autant plus vite qu'elles sont éloignées. Et là, donc, Hubble a compris que l'univers était en expansion. Comme le pain au raisin qui cuit dans le four.
Mais il s'arrête le pain au raisin au bout d'un moment. Alors que l'univers, on ne sait pas encore.
On ne sait pas encore. Et donc, c'est un nouveau jalon pour l'univers à grande échelle. Plus l'objet, plus la galaxie est éloignée, plus elle nous fuit rapidement. Donc il a suffi de mesurer la vitesse de fuite, le décalage vers le rouge, pour étalonner l'univers à grande échelle. Hubble a fait toutes sortes d'équations, qui a donné ce qu'on appelle encore aujourd'hui la loi de Hubble, avec une constante à l'intérieur qui, en fonction de la vitesse de fuite, donne l'éloignement. La loi de Hubble.
Et donc voilà, on a fait le tour des distances et de ce qu'on mesurait. Je me trompe ou j'ai oublié quelque chose, Georges ?
Non. Alors avec Hubble, la loi de Hubble, pas le télescope spatial qui porte son nom, on a quand même pu mesurer des galaxies jusqu'à 14 à 15 milliards d'années de lumière de nous.
Mais on n'est pas loin.
C'est le confin de l'univers.
Il y a quoi après ?
Et on ne voit plus rien après. Et pourquoi ? pourquoi on ne voit plus rien? Ben certainement parce que ce qui pourrait éventuellement avoir après, leur lumière n'a pas eu le temps de nous atteindre. C'est ce qu'on appelle l'horizon cosmique. Cette lumière, il faudrait plus de 15 milliards d'années pour nous atteindre.
Et quand tu penses que dans Star Trek, ils sont allés au bord, hein, franchement, ils sont des petits joueurs sur Terre. Donc, non mais alors, moi j'avais, sur l'horizon cosmique, j'avais une vraie question, c'est que j'ai lu, parce que comme on faisait cette émission, là, je fais 2-3 recherches l'après-midi, il ne faut pas dire que j'avais ça de tête. Il y a 2 théories. Il y a celle qui dit qu'après, il n'y a vraiment rien parce qu'on est parti du Big Bang et que tout s'étend. Et des qui disent, ben, si ça se trouve, il y a des Big Bang un peu partout et après, il y a peut-être quelque chose, mais pour l'instant, on ne le voit simplement pas.
Des univers cycliques un petit peu partout, avec expansion, puis recontraction, puis re-Big Bang, etc.
Ça, c'est la, et toi, tu te perçois comme ça, c'est quoi qui te fait le plus rêver?
Oui, qu'il y ait un univers en expansion, ici, et puis un autre, beaucoup plus loin. En expansion ou en contraction, pourquoi pas, etc., etc. Mais des choses, en tout cas, qui sont hors de portée de nos moyens techniques actuels.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on va le rappeler, c'est que la science évolue toujours et qu'on affine de plus en plus et qu'on voit de plus en plus loin et de mieux en mieux, du coup. Et qu'en fait, là, on parle de quelque chose qui date de 1923, Hubble, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Et voilà, donc on s'entend, on a fait des pas de géant dans la cosmologie. J'ai replacé le mot.
J'essaierai aussi en dîner familial.
Qu'est-ce que tu penses de la cosmologie, toi? Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Georges, parce qu'on arrive à la fin de l'émission?
Pas en particulier.
Non, pas en particulier. Tu peux dire non.
Je peux dire non.
Bah, on peut juste dire que de toute façon, on revoit Georges, enfin on revoit, on réentend, mais nous on le revoit, dans 3 mois.
C'est ça. Le 19 juin, normalement, si on ne s'est pas trompé.
C'est ça, dans les environs, en tout cas.
La veille du solstice.
D'été.
Ouais. Et de mon anniversaire, mais tout le monde s'en
fout. Champagne.
Moi, j'ai juste. Merci, Georges, vraiment pour cette émission.
Oui, et alors,
moi, j'invite les gens j'invite les gens qui auraient des questions à aller sur le blog et de laisser des commentaires. Tu voulais parler, Jean-Yves?
Ah oui, justement, je voulais faire un petit point là-dessus, mais c'est que justement, il y a pas mal d'échanges autour justement des émissions astronomiques. Et il y a Ed qui avait posé quelques questions et qui parlait aussi d'un logiciel.
Celestia,
et dont tu disais que c'était pas mal pour aller s'y balader aussi, pour essayer de découvrir, enfin, donner, je sais pas comment dire, corps à tout ce qu'on évoque ici.
Absolument, ouais, ça permet véritablement de faire de la navigation dans le cosmos. On peut accélérer les planètes, les ralentir, on peut aller voir les autres systèmes, on peut afficher le nom des étoiles ou pas, enfin, on fait ce qu'on veut avec Celestia.
Et en plus, c'est un logiciel libre.
Absolument. Ouh.
Donc, j'ai encore moins de...
Je peux plus en parler.
Tu as raison.
Je voudrais quand même ajouter quelque chose. C'est saluer nos collègues astronomes du club d'astronomie de Chaponnet. J'en fais un petit coup.
Oui, tu fais bien.
Et je rappelle que vous pouvez venir nous voir au club le mercredi soir à 20h30. À Chaponnet, à la maison des associations de Chaponnet.
Enfin, c'est venir vous voir et voir les étoiles.
Absolument.
Enfin, oui.
Non, mais... Et j'avais une dernière petite question, ou pas. Souvent, on termine l'émission en disant il y a des choses à observer, etc. Est-ce que là, il y a des...
Ah, la reine de nos nuits, en ce moment, c'est la planète Jupiter. Si, à la tombée de la nuit, vous regardez l'horizon est, vous voyez cet astre très brillant, bien plus brillant que toutes les étoiles. C'est la planète Jupiter. Et pour l'observer au télescope, il faut attendre qu'elle monte un peu au-dessus de l'horizon. Mais c'est à minuit qu'elle est au top... Et avec un télescope intéressant, c'est fantastique.
Et donc, vous pouvez tous aller chez Georges. Je vais vous donner l'adresse tout de suite et son 06. Non. Ben, encore merci, Georges.
Merci beaucoup.
C'était vraiment passionnant. On se revoit dans 3 mois, du coup. Avec, tu as déjà une petite idée ou pas encore du tout de l'émission que tu veux faire?
C'est en train de germer.
Ah, très bien. Mystère.
Ouais, c'est ça, c'est du teaser et tout.
Exactement.
Il sait y faire. Hein.
Oui. Bah ouais.
Moi, j'ai juste donné une petite info qui n'a rien à voir, mais rappeler que on a toujours la loi El Khomri à combattre, hein, et que du coup, le 24, c'est bien si vous pouvez aller dans la rue. Voilà.
Et ben voilà.
Et ben voilà. Et ben sinon, on vous souhaite une bonne semaine, malgré ça.
Et puis on va se quitter avec...
Avec, oui, avec Pink Floyd et A Great Day for Freedom.
Yes!
Et merci Clara à la technique.
Merci.
Bonsoir.
Et merci encore Georges. Et bonne soirée à tous.
Et à la semaine prochaine.
Et des bisous.
Ciao.
Now life devalues day by day, as friends and neighbors turn away, and there's a change that even with regret cannot be undone. Now frontiers shift like desert sands, while nations wash their bloodied hands of lords.